Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h, la bienvenue dans l'émission de Libre Antenne Ado & Co, une émission animée par des ados, et ce soir nous allons recevoir une délégation des élèves du lycée Schwilgé, inscrits au club radio des Tens Matin en partenariat avec Azure FM. Ils seront accompagnés de leur professeur documentaliste Anne Génin, qui est présent avec nous dans les studios. Du côté de l'animation, Thibaut, salut Thibaut.
Salut Sabrina, bonsoir à toutes et à tous.
Et nous allons pouvoir également écouter le travail des élèves du lycée Queberlé. Inscrits également à ce club radio, ça se passera un petit peu plus tard, vers 20h30. Ils vont parler du spectacle What Will Have Been, je crois que je parle bien anglais.
T'es bilingue, ça se voit, t'as fait LV1.
Voilà, le spectacle était joué le 8 février dernier au Tens Matin. Et pour démarrer cette émission, je vous propose de faire une présentation de l'équipe. Jules va nous parler de doc, d'actualité.
Eh bien oui, bonsoir à tous. Ce soir, trois nouvelles petites actualités. On en parle en ce moment, il y a certaines choses qui font polémique, mais on parlera pas de ça ce soir. Mais bon, on verra, je laisse quelques minutes.
Tu vas pas parler de NT, c'est ça?
Non.
Alexandre nous parlera d'un jour, d'un événement. Jules Junior nous parlera de sport.
Oui, comme d'habitude. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux espoirs célestadiens où on croise les doigts pour qu'ils soient qualifiés pour les JO de 2024.
En plus, t'as vraiment de la chance parce que c'est vrai qu'en sport, en 2024, on va beaucoup en parler. Léna nous parlera d'animé.
Bonsoir à tous, et pour cette soirée, je vous présente un animé fantastique sur les vampires. Alors non, ce n'est pas un poisson d'avril. Et si cet animé vous plaît déjà, je préciserai sur son sujet plus tard.
Alors tu sais Thibaut, moi je suis un peu triste parce que le 1er avril sera férié. Mais on va pas travailler.
Mais oui, mais tu sais que ça fait deux semaines que j'ai remarqué ça et je suis dégoûté. Je me dis comment on va faire pour se faire nos petites vannes habituelles du 1er avril quoi. Moi je pense qu'il faut qu'on le reporte à mardi.
Ouais c'est ça.
Le 1er avril on le fait mardi.
Voilà, moi aussi, je suis d'accord, je vote là-dessus. Et Léon, pour clôturer cette présentation, nous parlera d'un artiste ce soir. De qui tu vas nous parler?
Ça ne sera pas un artiste spécifique, mais je vais vous présenter des albums, plein d'albums qui sont sortis récemment. Voilà.
Ok, bah on a hâte. On pense à Héloïse qui est actuellement en stage, que l'on retrouvera très prochainement. Moi-même, Sabrina, du côté de la technique, et je vous propose de marquer une pause musique avec Kyo.
C'est tout de suite, c'est sur Azure FM.
Faites-moi de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface. J'ai pas trop d'amis, regardez en classe, pas l'extase. J'ai beaucoup d'espace, je suis seul. Et personne à qui le dire, c'est pas le pire. Quand la pause arrive, je ne suis pas tranquille. Il faut que je m'éclipse ou alors accuser les coups dehors. Il faudra que je coule. De doute pour m'en sortir, je dois tenir et construire mon futur. Partir à la conquête, une fille moins dure. Sûr que c'est pas gagné, mais j'assure mes arrières. Pour connaître l'amour et le monde, il faudra que je cours. Il faudra que je cours. Il faudra que je cours. Dans ce monde parmi faux, je voudrais m'arrêter. Je peux plus respirer dans ce monde parmi fous. Je voudrais m'arrêter. Je peux plus respirer dans ce monde parmi faux. Je voudrais m'arrêter. Je peux plus respirer dans ce monde parmi faux. Il faudra que je coule.
Je crois.
place pour ne pas qu'on m'efface. Faites-moi de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface.
Ado & Co, Ado & Co, Libre Antenne sur Azure FM.
Vous êtes de retour sur Azure FM avec Ado & Co, l'émission animée par des ados, mais pas que. Nous sommes quand même quelques-uns autour de cette table à ne plus trop être ado, mais on ne le dit pas trop quand même, il faut rester tout à fait jeune dans sa tête. On
oui,
va parler.
Je peux faire la petite voix si tu veux.
Ah, c'est parfait.
Je peux rester ado toute la vie.
Eh ben, on va garder ça au moins pour ce soir. On va parler doc avec Jules. Jules, à toi la parole.
Eh bien oui, bonsoir à tous. Les docs de Jules, c'est votre rendez-vous d'actualité. On en parle tout de suite. Qu'en est-il de l'actu ? C'est tout de suite générique. On va commencer ce petit tour d'actualité. Nous parlions il y a quelques jours du projet de train concernant la Suisse, l'Allemagne et la France jusque l'aéroport de Balmulhouse. Eh bien, sachez que le pays à la croix blanche réplique et a essayé cette semaine des trains contrôlés à distance. Alors, bien que les systèmes aient été développés par la franchise Alstom Cocorico, ce n'est pas en France que cela a été testé. Alors, ne vous inquiétez pas, cela n'est pas prévu que les trains ayant des passagers soient contrôlés comme cela. Le projet concernerait seulement pour l'instant les trains qui achemineraient une petite distance pour transporter des matériaux sur des lieux de construction ou même sur des lieux de chantier pour faire des tunnels par exemple. Le train a d'ailleurs réalisé donc sur ses essais sur une voie libre justement. Donc ça c'était l'une des premières fois en Europe, ça avait déjà été testé sur des pistes privées. Donc sur voie libre, il a réalisé une distance de 7 km à une vitesse maximale de 30 km/h. Alors je vous cache pas que pour un train c'est pas beaucoup, mais pour un test franchement, ça s'est avéré concluant. Le train a rejoint Zurich jusque Öhrlingen en Suisse donc. Train conduit donc à distance par des conducteurs qui savent bien évidemment conduire. Alors, je vous rassure, on parle toujours des débats avec les voitures autonomes. Maintenant, les trains autonomes. Alors, les trains autonomes, pourquoi pas, étant donné que ben il y a une voie, en fait, directement construite. Donc, on verra ce que ça donnera dans l'avenir. Dans l'avenir, en attendant, c'est pas prêt d'être déployé avant 2027, selon les premiers échos. En Estonie, un projet de loi est en train d'être discuté afin de réaliser du m-voting, du mobile voting, pour les élections présidentielles locales de 2027. Un enjeu réel, est-ce concrètement viable ? Quels sont les risques ? C'est un pays à observer puisque dans le futur, cela permettrait de s'ouvrir à pourquoi pas un nouvel électorat. Notons que l'équivalent de la Cour de la Cassation en Belgique a d'ailleurs donné une décision il y a quelques jours concernant les votes pour l'élection européenne de juin prochain. Et c'est d'ailleurs une obligation pour les jeunes de 16 et 17 ans d'aller voter. Le débat sur le droit de vote et sa manière perdure donc encore et toujours. Et ces deux informations nous le prouvent très concrètement. On finira par parler des Jeux Olympiques. Et désolé petit Jules, mais pour l'instant, pour une fois, j'en parle. Alors, après que Decathlon ait annoncé un énorme rebranding sur leur image de marque, montrant une volonté de s'ancrer en tant que meilleure marque de sport haut de gamme, entre guillemets, l'entreprise française a dévoilé à l'Accor Hotel Arena les tenues pour les volontaires lors d'un spectacle où tous ces derniers étaient conviés pour découvrir leur mission et pour tout simplement profiter du spectacle. C'est le visuel des chambres des athlètes ainsi que l'organisation concrète qui a également été dévoilée sur les réseaux sociaux. Au programme, rien de bien nouveau comparé à 2020 pour les habitations. On y retrouve les fameux lits en carton avec matelas personnalisables. Les athlètes pourront choisir leur fermeté. Alors, à noter que tout ça étant dans une démarche écologique. Donc, et on le voit de partout à travers les transports, même l'habitation. Donc, on verra tout ce que cela donne dans les faits. En attendant, je vous donne rendez-vous cet été. On verra, catastrophe ou pas, et polémique, qu'adviendra-t-il des Jeux Olympiques ? Ça va Thibaut ?
Écoute, moi ça va, tu m'as l'air essoufflé.
Un petit peu. Ouais, ben... Je me prépare pour le marathon, donc c'est pour ça.
C'est ce que j'allais dire.
Tu te prépares pour le marathon de Paris ?
Célestat.
Ah, de Célestat.
Ouais, c'est...
Il y a un marathon à Célestat ?
Non.
Il y a une course de 10 km, mais...
Ils font un semi-marathon, je crois, mais ça c'est en octobre, t'as le temps.
Non, mais je cours là un
et
peu.
Et puis c'est qu'un semi-marathon, tu veux faire un marathon ?
Non, je tiendrai pas. En tout cas, moi en courant, j'aime bien écouter de la musique et c'est ce qu'on va faire tout de suite sur Azure FM. On se retrouve juste après. Sabrina, qu'est-ce qu'on s'écoute ?
Olivia Ruiz.
Tout de suite sur Azure FM.
Quand tout fout, quand que la vie coupe mes jambes. je me cache sous la table, que mes heures se délitent. Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment.
Sur Azure FM.
Olivia Ruiz, c'était tout de suite sur Azure FM, il y a quelques instants sur Azure FM. Et ce soir, eh bien, Léna est avec nous sur le plateau, nous annonçant qu'elle allait parler de vampires. Alors non, je crois pas que ce sera Twilight, si je me trompe pas.
Non.
Donc ce soir, de quoi vas-tu nous parler, Léna? Je te laisse la parole.
Les vampires sont cruels, normalement on les retrouve à Halloween, mais dans Seraph of the End, la série parle de toute la population mondiale qui se bat contre des vampires. Et vous vous demandez sûrement comment cela est arrivé. Eh bien, un jour, une maladie tue toutes les personnes ayant plus de 13 ans. Enfin, ça, c'est ce que racontent les vampires, qui ont pris tous les enfants en otage pour boire leur sang. Classique. Un jour, Yuichiro et sa petite famille tenteront de s'enfuir de la ville des vampires qui les emprisonnaient. La réussite n'était pas avec eux, car leur évasion a fini en désastre. La seule personne qui a pu s'échapper était Yu. Il a dû abandonner son frère agonisant sur le sol. Enfin libre, le jeune homme rencontrera l'armée impériale du Japon qui se bat contre les vampires. Et oui, il ne faut pas croire les vampires, même si le virus avait tué un bon nombre de la population. Les suceurs de sang avaient dit un mensonge sur le fait que seuls les enfants de moins de 13 ans pouvaient survivre. Yu se fera engager par l'armée démoniaque du Japon lorsqu'il eut atteint le bon âge. Il fera alors la rencontre de Shinoa, qui détient le rang de sergent d'une petite escouade nommée la Brigade Geki, composée de Yoichi, à l'allure faible mais pas tant que ça finalement, d'Oshishio et Mitsuba. Les humains ont réussi à créer des armes capables de tuer des vampires après le temps. Elles sont toutes maudites par des démons et lorsqu'on blesse avec une de ces armes un vampire, celui-ci meurt en se transformant en cendre. Parmi tous les démons, des armes maudites sont beaucoup plus fortes. Elles appartiennent à la série des démons noirs. Seules certaines personnes peuvent en posséder, comme Yu, Yuichi et Shio.
Et c'est pas de l'ail?
Non.
Ok.
Réalisé par Daitsu Tokudo, l'animé comporte deux séries de 12 épisodes. Il est disponible sur Netflix en ce moment même, et si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder. Et c'est déjà la fin de la rubrique animée, et je vous dis à la prochaine.
Léna, par contre, petite question. Tu parlais d'armée des vampires contre l'armée japonaise ou chinoise. Est-ce que l'armée, parce que si c'est des loups-garous, crois-moi qu'il y a une certaine saga de films qui va se dire, les gars, je crois qu'il y a plagiat, mais je suis pas sûr.
Peut-être.
Avant que ce soit des films, ce sont des livres, ceux dont tu parles,
surtout,
Jules.
Oui.
Ce sont surtout des... Les livres avaient très bien marché, d'ailleurs. Par contre, les films, c'est vrai que... je pense que ça sert à rien d'épiloguer, comme on dit, d'épiloguer.
On demandera à la professeure documentaliste qui est là, entre les films, les livres...
Non, mais il y a beaucoup de sagas, les livres sont mieux.
Bah tout. Généralement, oui. Tout, en fait.
Harry Potter.
Alors, par contre, tu commences pas à attaquer Harry Potter face à moi.
Je t'attaque pas Harry Potter.
On va tout de suite
se calmer. Je dis juste qu'ils ont pas respecté Ginny Weasley.
Mais il y en a plein qui ont pas respecté.
Dans les films, ils ont pas respecté plein de personnages.
Est-ce que Pev est parlé dans la film?
Tu dis, Léna? Peeves. Oui, non, ils en parlent pas dans les films. C'est bien dommage. C'est le meilleur fantôme de tout Poudlard.
Totalement.
On parle musique, on parle animé. Sabrina, est-ce qu'on ferait pas une petite pause musique? Alors, on a fait une il y a pas très longtemps, mais j'ai vraiment envie d'écouter de la musique.
Charles avec n'importe quoi.
Eh ben, non, racontez pas n'importe quoi. Il y a juste après cette courte pause musique, on va se pencher du côté du sport avec Jules Junior.
Mon compte en banque a découvert, et moi qui lui fais croire que je suis milliardaire, n'importe quoi. Perdu mon job, jamais lui dire, je préfère m'inventer un sourire, n'importe quoi. N'importe quoi je ferais pour elle, pour pas la perdre, pour qu'elle m'aime, c'est pas mentir chez moi. Elle va me quitter pour un autre homme si elle apprend que je suis personne, vraiment n'importe quoi. Planter ma caisse dans le décor, 3 grammes de tristesse dans le corps, mon Dieu, n'importe quoi. N'importe quoi je ferais pour elle, pour pas la perdre, pour qu'elle m'aime, c'est pas mentir chez moi. N'importe quoi je lui raconterai, faire passer le faux pour du vrai, c'est pas mentir je crois. Comment lui dire dans la voiture, mon pote n'avait pas la ceinture, c'était n'importe quoi. Devant le juge, plus bas que terre, je ressemble à tout sauf à un père. Est-ce qu'elle attend de moi? Est-ce qu'elle attend de moi? N'importe quoi je ferais pour elle, pour pas la perdre, pour qu'elle m'aime, c'est pas mentir chez moi. N'importe quoi je lui raconterais, faire passer le faux pour du vrai, c'est pas mentir je crois. Je peux pas lui dire pour la prison, alors je l'ai quitté sans raison, tellement n'importe quoi. Je reviendrai après l'été, tout lui dire sauf la vérité, lui dire n'importe quoi. N'importe quoi j'ai fait pour elle, qu'elle garde l'image gravée en elle de tout ce que je ne suis pas. N'importe quoi j'ai fait pour elle, et rien qu'à l'idée de la perdre, je ferai n'importe quoi.
Azure FM, Ado & Co.
De retour sur Azure FM avec Ado & Co, Charles qui racontait un petit peu n'importe quoi. Nous, on va se pencher sur quelques mots de sport, notamment en parlant Jeux Olympiques. C'est avec Jules Junior. Jules, à toi la parole.
Aujourd'hui, je vais vous parler des Jeux Olympiques et bien entendu des Jeux Olympiques Paralympiques. Cette fois-ci, au travers de nos deux espoirs célestadiens. Espérons que cela leur porte chance et que nous entendions parler d'eux en juillet. Pour les JO, notre espoir joue en équipe et c'est notre fétiche, et c'est notre sport fétiche, le hand. Vous voyez de qui je parle ?
Oui. Mais si je le dis, c'est de la triche, donc je laisse la parole aux autres.
Moi, je laisse la parole à Thibaut.
Léna, est-ce que t'as une idée ?
Je veux rien dire.
Tu ne dis rien ?
Je veux faire
des fautes. Ok, bon, Yannis Lenne.
Ouais, c'est ça. Il est célestadien et il a été formé au Célestat Alsace Handball, le SAHB, par Thierry Demangeon et joue ses premiers matchs en championnat de France en octobre 2014. Il signe son premier contrat professionnel au SAHB en 2015, le 3 novembre 2016. Il connaît sa première sélection en équipe de France A face à la Lituanie à l'occasion d'un match de qualification pour les championnats d'Europe de 2018. À la fin de la saison 2016 et 2017, il signe pour 4 ans au FC Barcelone. En septembre 2018, il est prêté à Aix en tant que joker médical jusqu'à la fin de l'année 2018. Son prêt sera finalement prolongé jusqu'à la fin de saison. Il est annoncé à Montpellier en janvier 2019 pour un transfert effectif à partir de la saison 2020-2021. Il rejoint finalement le club de Montpellier dès l'intersaison 2019. Après la retraite internationale de Luc Abalo, à l'issue du titre olympique en 2021, Yannis Lenne participe à sa première compétition internationale à l'occasion du championnat d'Europe de 2022. Championnat d'Europe avec l'équipe de France en janvier 2024 et en route vers les JO 2024. Et pour la partie paralympique, vous avez une idée de la discipline ?
Natation, si je dis pas de bêtises.
Ouais, natation.
Il y en a qui écoutent les infos locales sur Azure FM.
Oui, si, bien sûr, bien évidemment, écoutez Azure FM.
Et t'as une idée de qui ça peut être ?
Je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais je sais que c'est en natation et voilà.
Il s'appelle Hector Denayer. Il est né en 2005 avec une agénisme congénitale du membre supérieur gauche. Bon, il a juste tout simplement plus de main gauche. Situation qui n'a jamais été un obstacle puisqu'il a pratiqué le BMX, le judo, le football et l'athlétisme et encore bien d'autres. Repéré par le comité régional handisport Grand Est, puis par la Fédération française de handisport, il se consacre pleinement à la paranatation en 2019. Année où il intègre le pôle France handisport à Talence et où il représente la France aux Jeux européens paralympiques de la jeunesse. En 2022, il fait le choix d'intégrer une structure d'entraînement de haut niveau à Dijon pour s'entraîner et concourir avec des nageurs valides. Choix qui s'est avéré très judicieux, car il a, au cours de cette saison, réalisé le troisième meilleur chrono mondial de sa spécialité et s'est qualifié pour les championnats du monde. Aujourd'hui, les choix et l'engagement d'Hector lui permettent d'envisager une qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 et d'y décrocher une médaille. Croisons les doigts et soyons derrière lui pour qu'il puisse défendre nos couleurs. Petite info locale, le 2 avril à Célestat, au centre sportif intercommunal, il y a le handicap ou pas cap. Vous connaissez ?
Pas du tout, mais je pense qu'on va connaître d'ici 5 minutes grand maximum.
Parce que oui, je pense que t'es capable de nous expliquer les choses.
Parce que c'est déjà la semaine prochaine.
Oui.
Par contre, je me suis rendu compte d'un truc dans ce que tu me disais. On n'est pas du tout dégueu en natation, en fait, à l'échelle nationale. Parce que ben, déjà, Léon Marchand, par exemple.
Non, c'est pas trop mal. Hein. En ski, en ce moment, on est en train de décrocher pas mal de médailles aussi.
Alors, c'est terminé, par contre, le biathlon aussi.
On a plus de neige, mais on a
ouais,
des skis.
Mais en para-vélo sur piste, les Français ont raflé énormément de titres mondiaux lors des championnats les deux dernières semaines.
C'est bon, vraiment...
C'était pour la petite actu complémentaire, mais Jules, c'est quoi du coup le handicap ou pas cap ?
Eh bien, c'est la journée de sport paralympique et 250 élèves participeront à une journée de découverte des différentes disciplines handisport, comme le cécifoot, la boccia ou le tennis adapté. Est-ce que vous savez ce que c'est ces trois sports ?
Alors, le cécifoot, j'ai déjà vu, je crois, il n'y a pas une balle avec des grelots ou quelque chose comme ça ?
Si, c'est ça. Tous les participants, ils sont aveugles et la balle, elle contient des grelots dedans. Et la boccia, vous savez ce que c'est ?
Alors, la boccia,
ça a l'air d'être un plat italien.
J'allais dire, c'est un fromage italien, ça, tous les coups. Ou un truc corse, un saucisson corse.
Non, c'est une discipline de sport paralympique. Donc, c'est de la pétanque. Sauf que.
On m'a mimé avant dans le studio, donc je pensais bien que c'était la pétanque.
Sauf que c'est des personnes qui sont très tétraplégiques et qui ont un bâton dans la bouche et qui essayent de faire tomber une balle qui est sur une rampe. Et ensuite, le but du jeu, c'est de mettre la balle le plus près du cochonnet, qui est la balle blanche.
J'ai l'impression que tu me parles du molki, là.
Ils sont tétra ou paraplégiques?
Ça dépend, tu sais, je pense.
Parce que, du
ça
coup,
peut être les deux.
Paraplégique, c'est être paralysé de la tête au cou.
Ouais,
c'est et tétraplégique, c'est ça, t'as simplement une partie du corps, peu importe laquelle, ça peut être un bras, une jambe, la bouche, qui est du coup paralysée.
Bah, je pense que ça dépend des joueurs qui participent. Il y en a peut-être qui sont tétraplégiques et d'autres
qui sont paraplégiques. Ok. Ouais.
Alors, autour des valeurs citoyennes et sportives que l'on retrouve dans l'olympisme et le paralympisme. Mon petit frère y sera et j'espère qu'il s'éclatera autant que moi quand je l'ai fait. Et pour finir, je voulais vous parler du sport local. Mais comme il y a 15 jours, rien de fameux. Alors un espoir que le Lapin de Pâques nous apporte du succès. Et dans 15 jours, avec la rubrique sport made by Jules.
Enfin, j'espère surtout que le Lapin de Pâques va quand même ramener un peu de chocolat. Parce que bon, c'est bien beau. C'est vrai que le Racing en ce moment, c'est pas foufou. Le SHB, c'est pas foufou.
Le Racing, j'ai espoir pour le bon maintien. On a gagné face à Nantes.
Et l'équipe de France ?
Non, n'en parlons pas.
On peut en parler aussi, hein, très rapidement. L'équipe de France qui a fait un véritable fiasco face à l'Allemagne le week-end dernier. Ce soir, ils jouent contre le Chili.
Tout à l'heure.
Ils sont capables de tout. Hein. Oui, tout à l'heure. Oui, le début du match, c'est dans une demi-heure. Coup d'envoi à 21h. Et bon, ils sont encore capables de tout.
Thibaut,
on va être surpris.
Ta phrase a été plus longue que le temps où la France ne s'est pas pris de but sur le début de match.
C'est vrai.
C'est terrifiant.
6 secondes.
7, non ? Je sais plus.
Bon, oh, c'est un record en tout cas.
C'est 8, je crois.
Première fois. Bon, on va pas faire tous les chiffres non plus.
Non, mais je crois que c'est 8 exactement.
En tout cas, merci beaucoup, Jules, parce que j'aime toujours autant tes chroniques et on en apprend toujours énormément. Voilà. Moi, je me souviens effectivement d'Yanis que j'ai connu il y a très, 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 très longtemps.
Au Mantel
En primaire même.
Si c'est, quand, primaire. T'étais, si c'est primaire. Quand t'étais jeune, c'était il y a vraiment longtemps alors.
Oui, bah, c'était aux alentours du siècle dernier. C'est vrai qu'on était plus proche du siècle dernier que de l'année 2024. Mais en tout cas, merci beaucoup Jules. Et je propose de faire une petite pause musique avant de se tourner vers nos invités du soir, les élèves du lycée Chuliguet, que j'embrasse d'ailleurs, le lycée Chuliguet. J'embrasse très fort le lycée Chuliguet à jamais. Et donc je propose de faire une petite pause musique. Sabrina, qu'est-ce qu'on va s'écouter ?
Sia avec Gim Love. D'ailleurs, si vous passez au Chuliguet, il y a marqué Thibaut. Et ben c'était toi.
Voilà. Et s'il n'y a pas, ben c'est que c'est Gim Love. You don't wanna dance with me, but babe, that's what I need. Please, now just this once. Dance, baby. Sing with me, but babe, that's what I need. Please, now just this once. Sing, baby. La la la. Sing, baby.
Ado&Co, Ado&Co, Libre Antenne sur Azure FM.
Vous êtes de retour sur Azure FM avec Ado&Co, l'émission animée par les ados pour les ados, comme tous les mardis soirs de 20h à 21h. Et maintenant, on se retrouve avec nos invités, les élèves du lycée Schfilger du club radio des Tonspaten. Alors, je te laisse la parole. Bonsoir.
Bonsoir, merci. Donc le 6 février dernier, moi, Gabriel, Elliot et Glantine, qui ne sont malheureusement pas présents ce soir, étions allés voir le spectacle Les Fourberies de Scapin en Tonspaten. Avant le spectacle, nous avons pu interviewer notamment le metteur en scène, donc Anthony Magnier, un comédien de la troupe Mathieu Ornus, le directeur des Tonspaten Jean-Paul Humbert, et pour terminer, le régisseur Virgile qui a consacré du temps pour nous présenter un petit peu le métier, voir les différents aspects techniques que pouvait avoir un spectacle. Et donc vous entendrez dans la capsule qui suivra, dans cet ordre dans lequel j'ai pu donner les prénoms.
Mais du coup tu n'as pas donné le tien, tu as remplacé ton propre prénom par moi.
C'est
et
ça.
Du coup, qui est
très beau prénom déjà.
Non, merci. Non, alors moi c'est Julio.
Ok, parce que moi on est beaucoup à avoir ce prénom.
Ah ouais.
Donc, oui, je trouve qu'en France il y a beaucoup de personnes qui s'appellent moi.
Il y a des variantes, des fois il y a MWA aussi. Moi.
Waouh, je viens d'avoir un choc. Ok, donc bonsoir du coup Gabriel et Julio, merci d'être avec nous dans le studio. Sans oublier aussi une personne qui vous accompagne tout au long de cet atelier. Votre professeur documentaliste Anne Génin.
Évidemment.
Bonsoir.
On écoute la petite capsule ?
Oui, donc c'est les fourberies de Scapin.
Molière est dans l'air du temps. Avec les récentes sorties du film Le Molière imaginaire et la comédie musicale L'Opéra Urbain, le comédien et dramaturge revient sur la scène de la culture populaire. Pour cette raison que les élèves du lycée Schfilger sont allés voir les fourberies de Scapin et en ont profité pour interviewer des professionnels des métiers du spectacle. Le directeur de salle, le régisseur, le metteur en scène et le comédien. En voici quelques extraits.
Est-ce qu'on joue encore Molière aujourd'hui de la même façon qu'une pièce contemporaine ?
Oui, après, le texte, les dialogues et des fois les thèmes abordés sont plus anciens. Bon, ça ne parle pas de l'actualité d'aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui font écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on joue comme on jouerait une comédie contemporaine. Mais sinon... c'est avant tout pour moi un plaisir, hein. Mon métier d'acteur, le fait de jouer, de faire vivre des émotions aux gens, c'est avant tout un plaisir.
Pourquoi jouer les fourberies de Scapin ?
Parce que c'est drôle et on avait envie de se marrer. Les effets sont si drôles que c'est toujours un plaisir à jouer.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix du décor et des costumes ?
Oui, tout à fait. Le décor est assez minimaliste. J'avais envie d'un univers assez graphique, moderne, mais sans qu'on soit dans des costumes, dans une esthétique contemporaine. En tout cas, qui est une modernité.
Est-ce que vous aimez votre métier et quel est votre parcours pour justement accéder à celui-ci ?
Est-ce que j'aime mon métier ? Oui, oui, j'aime mon métier. Oui. Ça fait 30 ans que je le fais et je me lève tous les matins en me disant waouh, quelle chance j'ai. Alors après, je suis metteur en scène et je gère aussi la compagnie. Donc il y a des aspects qui sont moins rigolos. L'artistique, c'est pur, c'est vraiment très très agréable. Après, le boulot de tenir une entreprise, c'est une entreprise, une compagnie de théâtre, c'est pas toujours, toujours rigolo. Mais bon, ça fait que je suis libre et indépendant et ça n'a pas de prix.
Pouvez-vous définir votre métier, ses enjeux et les responsabilités qui sont les vôtres ?
L'un des points importants, c'est d'établir la programmation de saison. L'enjeu, c'est offrir une programmation éclectique et diversifiée, accessible au plus grand nombre, au Célestadia et à l'Alsace centrale. Au-delà de ça, mon métier, c'est pas que la culture, c'est aussi une gestion humaine, c'est la communication, c'est la sécurité, c'est divers travaux de maintenance ou de réparation. Un théâtre, c'est pas que le spectacle, c'est aussi un bâtiment à maintenir.
Vous êtes directeur des Tonspaten et vous avez choisi de présenter Molière. Pourquoi ce choix ?
On a l'habitude tous les ans de présenter un ou deux classiques. Molière est un habitué. En moyenne, tous les deux ans, on a Molière parce que c'est un auteur qui est connu et qui est étudié en scolaire.
Nous avons été particulièrement intéressés par le métier de régisseur, un métier de l'ombre, mais d'une importance capitale pour la tenue du spectacle. Pouvez-vous décrire votre travail et celui-ci demande-t-il beaucoup de connaissances et quelles qualités demande-t-il ?
Premièrement, ça demande beaucoup de travail puisque le spectacle se résume pas à la représentation. Il y a beaucoup de préparation en amont, plusieurs mois à l'avance déjà. Et on leur demande surtout quelles sont les spécificités techniques du spectacle. Et ensuite, on leur demande de nous faire un plan d'adaptation, en tout cas pour la lumière, à leur charge à eux de préparer cette date ici à Célestat. Et chaque spectacle est foncièrement différent. La danse, on peut pas l'éclairer de la même façon que pour un concert. On peut pas l'éclairer de la même façon que pour du théâtre.
Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour éclairer ou mettre ce spectacle en lumière ou en son ?
Des difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est que l'éclairagiste qui devait accompagner la troupe, qui se produit ce soir, n'a pas pu venir. Donc on m'a demandé en dernière minute, à deux jours, de le remplacer. Et on a pu faire l'adaptation avec le metteur en scène pour pouvoir remettre les lumières cadrées vraiment pour ici. Il faut que je sache un petit peu en amont ce que je dois faire, à quel moment, en fonction du texte et de la mise en scène.
Un spectacle drôle et enjoué et des rencontres passionnantes.
Azure FM, Ado & Co.
C'était donc la petite bulle justement de nos élèves du lycée Schilgué. Et tout de suite, je crois que Thibaut, t'as un petit mot à te dire avant qu'on retourne aux invités.
Oui, tout à fait. Alors, j'apporte un léger correctif par rapport à ce que j'ai dit avant. Alors évidemment, c'est pas de la tête au cou, hein, je voulais dire des pieds au cou. Et même double correctif, puisque la paraplégie est en fait la paralysie des membres inférieurs, et la tétraplégie, c'est une paralysie des quatre membres. Donc cette fois-ci, la tétraplégie, c'est des pieds au cou. Donc pardonnez-moi pour cette confusion, j'en ai encore parlé ce week-end avec des amis et au final on s'était tous plantés. Donc voilà, c'était pour le petit correctif médical.
On peut poursuivre ?
On peut poursuivre, à vous la parole. Et du coup,
et tout de suite, on se retrouve donc avec madame Anne Génin, professeure documentaliste, qui est avec nos élèves. Donc, bonsoir.
Bonsoir. Oui, c'est vrai, je suis une des deux documentalistes du lycée Schilgué. Et une de mes missions, c'est de permettre aux élèves une ouverture culturelle et artistique, de les amener à sortir, au musée, au cinéma, au théâtre, à découvrir ou à redécouvrir le spectacle vivant. Très important, le spectacle vivant. Un autre de mes rôles, c'est de les sensibiliser à l'éducation aux médias et à l'information. Et donc ce projet, eh ben, il tombe pile poil dans ses missions. Et grâce au temps de ce matin à Azure FM, les élèves ont donc pu découvrir trois spectacles et réaliser des capsules de son autour de ces spectacles. Et donc, je l'espère, ça leur a permis d'acquérir plein de compétences.
Alors ben justement, je pense qu'on peut leur laisser la parole maintenant. Donc bonsoir les garçons, vous nous avez déjà un petit peu parlé de votre capsule juste avant. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez du rendu au final?
Bah, pour cette capsule, on est assez satisfait, c'est bien débrouillé pour celle-ci.
Pour celle-ci, parce que il y en a eu avec le micro c'est toujours mieux. Pour celle-ci, du coup ça veut dire qu'il y en a une ou certaines dont vous n'êtes pas satisfait.
Oui, on en avait une au début qui s'était un petit peu mal passée, parce qu'en fait on a eu un petit peu de problèmes pour se réunir tous ensemble pour pouvoir terminer la capsule. Et puis en plus, moi j'étais tombé malade, donc on n'a pas pu se retransmettre les audios, donc c'était un petit peu compliqué. Au final, on a quand même réussi à la rendre en temps et en heure, mais on n'était pas complètement satisfait du résultat, contrairement à cette capsule.
Et du coup, là t'as déjà donné 2-3 éléments. Quelles difficultés vous rencontrez dans cet atelier, parce que je crois savoir que vous n'êtes déjà pas de la même classe?
Ouais, effectivement, comme l'a dit Julio, c'est compliqué de se rencontrer entre midi et deux avec les deux autres élèves, donc Elliot et Glandine, qui sont pas dans la même classe que nous. Donc forcément, avec les différents emplois du temps, c'est assez compliqué de tous se réunir en même temps.
Alors,
ce qu'il a appris.
Ah, donc je crois que je vais devoir te laisser la parole.
Donc, qu'est-ce que tu as appris en participant à cette activité?
Bah déjà, premièrement, on a pu se rendre dans la salle de spectacle, donc au temps de ce matin, pour voir deux spectacles. On a fait des rencontres comme Virgile, le régisseur, donc dont Julien en a déjà parlé. On apprend évidemment, comme on a fait des interviews, à avoir un esprit de synthèse, d'analyse sur le spectacle qu'on a regardé. S'exprimer clairement, distinctement. Et évidemment, utiliser les outils numériques qu'on a utilisés, du coup, Audacity, et pour apprendre à utiliser ces outils pour faire des capsules.
Alors, vas-y, Julio.
Merci. Et on voulait juste remercier aussi Elliot et Glantine, qui ne sont malheureusement pas présents ce soir, et Madame Génin, qui nous a, du coup, permis de pouvoir réaliser ce projet. Merci beaucoup.
Et du coup, pourquoi Elliot et Glantine ne sont pas là?
Très bonne question.
Ok, ben, on va les gronder.
Moi, j'avais une petite question, donc. Vous parlez des interviews. Comment est-ce que vous préparez les interviews, justement, avant d'intervenir au spectacle?
C'est un travail en amont, avant le spectacle. On se répartit qui va interviewer qui, par exemple, le régisseur, le metteur en scène, tout ça. Et du coup, on prépare nos questions à la maison, et on fait ça en fonction de nos questions.
Alexandre, t'avais une question, je crois.
Oui, et du coup, en voyant le nom Club Radio Proa, vous avez décidé de participer à ce projet?
Alors moi, pour ma part, c'était pour découvrir un peu les métiers de la radio, le côté technique des spectacles et de pouvoir voir un spectacle aussi, puisque c'est vrai que moi, personnellement, j'y vais jamais parce que c'est pas vraiment mon truc.
C'est pas ton chemin.
C'est ça.
Bah, à peu près les mêmes raisons que Julio, hein. Je voulais un peu découvrir le métier de la radio et puis même ça pouvait permettre de voir des spectacles.
Ça peut éventuellement vous inspirer pour le futur, je sais pas.
Bah, je pense plus Julio que moi.
Oui, peut-être du côté technique, pas forcément la radio, mais dans le son, dans les choses comme ça.
C'est vrai qu'on en parlait déjà un petit peu avant et c'est vrai que pas mal.
Alors vous pouvez aussi le mettre sur votre CV. Non, mais c'est vrai, c'est bête à dire, mais en fait, vous pouvez mettre sur votre CV que vous avez participé dans des activités bénévoles à un club radio. Donc, ça fait cool. Toujours un petit truc en plus.
Je le ferai, merci.
Puis nous recevons les CV de personnes intéressées par de la technique. Ce sont des choses qui arrivent aussi, donc si jamais. C'est une piste.
On verra. Pas. Merci.
Comment vous faites concrètement, du coup, pour vous coordonner avec le reste de l'équipe? Parce que là, vous avez rencontré une difficulté en début d'année où Julio était absent. Comment on fait pour gérer l'absence de quelqu'un? Si ça se trouve, c'est lui qui va avoir l'enregistrement et ça coince tout.
Bah, du coup, pour cette deuxième version, on a décidé de mettre un drive entre nous, ce qui nous permettait d'avoir tous une copie des audios originaux plus de l'avancement de la capsule finale. Comme ça, on n'a pas de problème d'absence, de choses comme ça.
Et comment, du coup, vous arrivez à vous retrouver entre midi et deux, où vous vous voyez carrément en dehors des temps scolaires, chez vous, ensemble? Est-ce que le lycée vous met peut-être une salle à disposition, ou est-ce que vous devez travailler au CDI? Si le CDI est fermé, comment vous faites?
Bah, pour le moment, on a réussi à se réunir après les cours, donc entre midi et deux, on a pu manger Prio grâce à Madame Génin, et on s'est réunis dans une pièce au niveau du CID, du CDI, pardon, pour en parler et préparer les questions et tout ça.
Alors moi, je voulais quand même dire, on note quand même une belle progression entre la première capsule et la deuxième. Le fait que vous travaillez ensemble, ça fait aussi partie de ça, ce projet. C'est pas que quelle est la finalité radio, quel reportage on va donner à la radio. C'est comment on arrive à travailler tous ensemble. Et ces compétences-là, vous allez pouvoir vous en servir à un autre moment. Oui, Madame Génin.
Et d'ailleurs, pour le troisième spectacle, on espère que la capsule sera encore plus réussie.
Et du coup, quel est le troisième spectacle que vous allez voir?
Alors là, très bonne question.
C'est un spectacle autour du thème du sport qui s'appelle « Où cours-tu comme ça ?» où un ancien marathonien se pose des questions sur sa pratique et puis sur la philosophie du sport, sur ce que ça lui a apporté, avec, je crois, un aspect artistique intéressant, puisque, d'après ce que j'ai compris, on va voir des papiers découpés qui vont nous raconter une histoire. On verra.
Thibaut, dans les spectacles sportifs, je crois que tu t'y connais pas mal en ce moment.
C'est ce que j'allais dire.
C'est vrai. C'est assez étrange à dire, mais oui, j'ai pu réaliser cette interview tout à fait incroyable d'un ancien sportif, Martin Fourcade.
Incroyable.
Qui est voilà, une légende du biathlon. C'est à retrouver sur notre site, hein, azur-fm.com. N'hésitez pas à aller jeter une oreille. Il y a à peu près 23 minutes d'interview donc avec Martin Fourcade. C'était un grand moment. J'ai très peu ressenti le stress dans ma vie. J'ai découvert cette sensation très étrange avant de le rencontrer. Je faisais partie des gens qui sautaient sur mon canapé en hurlant son prénom devant ma télé pendant une bonne partie de ma jeunesse. Et là, on était assis sur le même canapé. C'était très déstabilisant, mais voilà, c'est quelqu'un que j'ai trouvé très agréable et très très gentil, très avenant. Donc,
d'accord.
Au final, tout s'est bien passé.
Je vous propose peut-être d'écouter la deuxième capsule. C'est le lycée Queberlé qui l'a produite. Les élèves sont absents, mais bah, forcément, on pense à eux. Oui, Jules.
Sabrina, c'est quoi le nom du spectacle? Est-ce que tu peux répéter?
Alors, attends. Moi et Shakespeare, ça fait deux, voire trois personnes. Donc, c'est What Will Have Been.
On note une nette amélioration. Hein. C'est très. La troisième fois sera parfaite.
What Will Have Been.
Et on écoute ça tout de suite.
Bonjour, nous sommes trois élèves du CQ Berlé, Lucas, Mathias et Aélis, et nous avons été invités à une représentation de What We Have Been, Autansmaten à Célesta, un spectacle d'acrobatie original et spectaculaire. Nous sommes allés à la rencontre des spectateurs.
Qu'avez-vous pensé du spectacle?
Alors j'ai trouvé très émouvant, très poétique et très libre dans l'exploration des relations hommes-femmes, hommes-hommes et dans l'ouverture vers le monde.
Dans ce spectacle, pour moi, est assez complet parce qu'il fait appel à plusieurs univers et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup.
Quelles émotions avez-vous ressenties lors de cette performance?
Alors beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup d'admiration pour la performance technique. Beaucoup d'émotions par rapport à la poésie, de la musique, des gestes chorégraphiés. Enfin, c'est vraiment très, 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 très beau.
Nous avons également posé des questions à l'équipe technique.
Quel est votre rôle dans...
Alors moi, je suis coordinatrice artistique, c'est-à-dire que je fais en sorte que le spectacle ne perde pas en qualité, parce qu'on joue énormément de fois, et des fois, sans que les artistes le fassent exprès, la qualité baisse un peu. Donc moi, j'ai un œil extérieur, je regarde tous les jours le spectacle et je m'assure que le spectacle ne baisse pas en qualité.
Est-ce que les acrobates se mettent en danger ?
Jamais. Il n'y a jamais de prise de risque inconsidérée sur un spectacle. On va faire uniquement ce qu'on est en contrôle pour limiter au maximum le risque de blessure. On va vraiment chercher l'intégrité physique des artistes, que ce soit vraiment en sécurité, autant sur le plan des lumières que sur le plan de la scène en elle-même. Sur les mouvements acrobatiques, on va jamais chercher du danger.
Comment est-ce que vous avez collaboré avec la troupe pour la mise en place des installations ?
Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur le sujet et on a préparé en amont un dossier technique avec la compagnie. On a fait un plan de feu adapté pour que les lumières du spectacle puissent s'adapter à notre salle ici au Tanzmatten.
La salle Tanzmatten est réellement adaptée pour les spectacles de cirque ?
Pas tous les spectacles de cirque. Après, c'est une question de volume ou de hauteur qui peuvent parfois nous limiter sur certaines productions.
What Will Have Been nous a émus, subjugués et impressionnés de par la technique, la poésie et la complicité entre les artistes.
C'est la fin du reportage.
Donc, de retour sur Azure FM pour, avec Ado & Co, du coup, jusqu'à 21h, on approche tout doucement de la fin de l'émission et on va faire un petit point d'histoire. C'est tout de suite, c'est avec Alexandre. On t'écoute.
Aujourd'hui, nous sommes le 26 mars. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors, j'avais déjà parlé de la guerre de 100 ans l'année dernière, en début de saison, mais j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un conflit assez méconnu qui a lieu pendant cette période, à savoir la guerre de succession de Bretagne.
Je t'arrête tout de suite. Mais comme son nom l'indique, la guerre de 100 ans est assez vaste. On se situe où à peu près ?
Alors vraiment vers le début de la guerre de 100 ans, après la bataille de l'Écluse de 1340. L'Angleterre et la France n'arrivant pas à prendre l'avantage, ils concluent une trêve à Épluchin.
Je suppose que cette trêve ne va pas durer.
Effectivement, un nouveau conflit annexe va commencer en Bretagne.
Et comment ?
Alors un peu comme la guerre de Cent Ans, par un problème successoral. Jean III de Bretagne meurt en 1341 sans héritier. Deux prétendants au trône commencent donc à se battre. Sa nièce Jeanne de Penthièvre, mariée à Charles de Blois, neveu du roi de France Philippe VI, et Jean de Montfort, le demi-frère du coup de Jean III de Bretagne. Normalement, l'héritière légitime serait Jeanne de Penthièvre, car elle est plus proche généalogiquement de Jean III.
Alors pourquoi ils se battent si l'héritière légitime est déjà là ?
Alors certes, en Bretagne, la succession peut se faire via les femmes, mais en tant que fief du royaume de France, l'ordre successoral doit être le même que celui du coup du royaume de France. Et depuis peu, on interdit l'héritage par les femmes. Deux camps vont alors se former. L'Est du duché et les grands seigneurs sont favorables à Jeanne de Penthièvre, alors que l'Ouest et la petite noblesse soutiennent Jean de Montfort. Ces deux camps sont aussi soutenus par les rois des deux royaumes belligérants.
Laisse-moi deviner, le roi d'Angleterre soutient Jean de Montfort et le roi de France soutient Charles de Blois.
C'est exactement ça. Dès 1341, la guerre commence et Jean de Montfort occupe la moitié du duché de Bretagne et rend hommage au roi d'Angleterre. Aussitôt, le roi de France envoie son frère, le duc de Normandie, récupérer la Bretagne et Jean de Montfort est fait emprisonner.
Cela met fin au conflit ?
Eh bien non, la femme de Jean de Montfort, Jeanne de Flandre, continue le combat et demande de l'aide au roi d'Angleterre. Les deux rois des deux royaumes vont alors combattre, mais refusent de se rencontrer, et une trêve est conclue en 1343, qui va être brisée un an plus tard.
Et le rapport avec la date du jour ?
Alors les deux parties continuent à faire la guerre sans réellement avancer, aucun camp ne prenant l'avantage. En 1347, la Bretagne est comprise dans la trêve de Calais, qui interrompt les conflits pendant 4 ans. Le 26 mars 1351, la trêve est suspendue par le combat des 30, qui met aux prises 30 et un champion du parti de Blois et autant du parti de Montfort, sur la lande autour du chêne de la Mi-Voie, entre Plohermel et Josselin.
Eh ben, merci. Thibaut, je te propose de marquer une petite pause musique. On revient après avec Léon, puisqu'il a plein d'albums à nous présenter.
À nous présenter, puis on approchera vraiment de la toute fin. Qu'est-ce qu'on écoute, Sabrina ?
Pierre Demar, et c'est mercredi.
C'est dommage parce qu'on est mardi.
Je vois dans mon salon un immense monstre qui danse. Non, mon père qui s'affole et me prend pour.
sa voix qui résonne partout dans la maison. Moi je plane et retombe en enfance. Maman, j'hallucine, je vois les morts. C'est l'heure du bal, regarde-les qui dansent devant moi. Du bout de mes doigts, je guide leurs pas. Non, maman, j'hallucine, je vois les morts. Et je me plais si bien dans ce décor que j'oublierai demain. Non, mercredi, je crois aux fantômes, fais aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Chance, je verrai mort dans ces nuits. Hey, je suis un mauvais garçon. Je maudis vos idoles et vos incantations. Moi je crois aux histoires qui m'enchantent. Non, tu me fais la leçon. Tu sais bien qui a tort et surtout qui a raison. Tu ne crois qu'en la sainte évidence. Maman, je lui signe, je vois les morts. C'est l'heure du bal, regarde-les qui dansent devant moi. Du bout de mes doigts, je guide leurs pas. Mercredi, je crois aux fantômes, fais assis. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Non, mercredi, je crois aux fantômes, fais assis. Si j'ai de la chance, je verrai les morts.
Ado & Co, Libre Antenne sur Azure FM.
De retour sur Azure FM, vous qui nous écoutez aux quatre coins de l'Alsace, en DAB+, FM ou en streaming aussi. On va parler musique avec les dernières sorties au niveau des albums. C'est tout de suite, c'est avec Léon. Bonsoir Léon.
Ce mois de mars était assez riche en termes de nouveautés musicales ou de sorties d'albums. Et c'est donc de cela qu'on va parler aujourd'hui, des 5 dernières sorties d'albums. Alors en premier temps, nous avons l'album de Shakira, Las Mujeres, Yano Loran, qui vient tout juste de sortir avec 17 sons inclus qui sont Punteria, La Fuerte, Tiempo Sin Verte, Cohete, Entre, Parenteris.
Est-ce que tu fais espagnol?
Non, malheureusement.
Tu peux commencer au lycée. Il y a de très bons profs d'espagnol.
Oui. Et il y en a plein d'autres. Je vous laisse la surprise. Voilà. En deuxième, il y a Olivia Rodrigo, avec le deuxième opus de l'album Guts, qui s'appelle Guts Spilt.
Guts.
Ok. Bon, qui regroupe les mêmes sons que son album précédent, mais avec 5 sons inclus qui sont Offset, Girl I've Always Been, Scared of My Guitar, Stranger et So American. En troisième, nous avons Future avec We Don't Trust You, qui regroupe plein de sons, dont We Don't Trust You, Like Dan, Ice Attack, Tip Ship ou Cinderella. Cinderella. Qui sont d'ailleurs les sons de l'album qui ont le mieux marché. En avant-dernier, il y a Lacrime avec Veni Vidi Vici.
Donc ça c'est bien prononcé. C'est Jules César qui dit ça.
Je pense, ouais, c'est du latin. Oui.
C'est du latin, c'est du latinus pour les initiés.
Dans ses musiques Corleone 2, Fugazi, John Gotti, Concrete et Dead Inside. Et il s'agit d'un excellent début d'album car toutes les musiques dedans font tout le temps, voire presque 1 million de streaming en France. Et pour le dernier album, nous pouvons accueillir un nouvel artiste qui fait ses débuts en lançant son tout premier album, Imad, qui est actuellement en précommande avec pour le moment qu'un seul son dedans.
Et est-ce qu'il va est-ce qu'il est qualifié au JO? Il le lance à combien de mètres à peu près, tu sais ou pas?
300 000 mètres.
Ah, c'est
mais il n'y a qu'un titre hein, dedans.
Il n'y a qu'un titre.
Oui.
Ouais, mais 300 000 mètres, c'est beaucoup.
Tu sais, dans les années 90, tu pouvais acheter les albums et après, t'achetais les deux titres.
Oui.
Là, c'est le
là, t'achètes
titre.
L'album et un titre.
Qui s'appelle Toko Dumbi. Alors, il s'agit du youtubeur Théodore qui a préféré choisir la voie de la musique. Alors, j'espère que vous avez apprécié. À la prochaine pour en savoir plus sur les prochaines sorties musicales.
Bah, avec grand plaisir. J'espère qu'il y en aura parce qu'il y a souvent des périodes un petit peu plus creuses. On approche définitivement, Jules.
Oui. À noter quand même qu'en mars, il y avait aussi la sortie du dernier album d'Ariana Grande. Voilà.
Oui, mais ça, c'est pas important.
Ariana Grande.
C'est Ariana Grande, ça, c'est
redescend.
Pas.
C'est Ariana Grande que pour Léon. Okay.
C'est pas foufou, quoi. Ariana Grande, bon,
ça,
voilà.
Ça reste des millions d'albums vendus, mais.
Oui, oui. Oui, on peut dire ça comme ça. On approche maintenant, ça y est, c'est l'heure de se dire au revoir. On va tout de suite laisser la parole à nos invités qui souhaitent faire un dernier petit coucou. Julio, Gabriel.
Les coucous, les bisous, les dédicaces, voilà.
On était trop contents d'être venus.
Oui, merci, c'est gentil.
Merci à vous.
On dit pas coucou aux copains donc.
Copains, les collègues qui n'ont pas pu venir, non, rien du tout.
Si, on leur dit quand même un petit coucou à Elliot et Glantine.
Et moi, j'en profite pour dire un grand merci à Sophie Fontenot des temps de ce matin.
Ah oui, oui aussi. Merci Sophie.
Léna.
Eh bien, moi, je fais un petit clin d'œil à ma marraine qui m'écoute et je vous souhaite une très bonne soirée à tous.
Léon.
Moi, je fais une dédicace à toutes les personnes qui nous écoutent. Voilà. Et merci à vous.
Jules Junior, t'es prêt, t'as le micro en main, t'es déchaîné, t'es prêt à faire un gros bisou à toute la Terre.
Ouais, c'est ça, comme d'habitude aussi, les copains du rugby et la famille, et voilà.
Ben moi, comme d'habitude, je fais un coucou à mon frère et à mes parents.
Jules.
Eh bien, déjà, merci à tous, à vous tous autour de cette table, merci à nos invités d'avoir été avec nous, merci à vous les chroniqueurs, Thibaut, Sabrina, bon, ben, merci de nous supporter encore.
Bon, Sabrina, bon, ça veut dire quoi, ça? Bon, Sabrina, non, voilà, elle est là, on peut pas la mettre ailleurs.
Merci encore de me supporter, surtout. Et puis, ben, une dédicace à vous, nos auditeurs, toutes les personnes qui me soutiennent, et je vous dis à la semaine prochaine.
Sabrina, est-ce que t'as un petit coucou à faire?
Ben, je remercie également les Tansmatan, le lycée Queberlé, le lycée Schfilgé, l'encadrement des professeurs parce que, enfin, il est juste incroyable. C'est quand même eux qui font un peu, qui mettent tout ça ensemble. Les élèves travaillent beaucoup, mais c'est mon interlocuteur, voilà, c'est Madame Génard, oui.
Ouais, ben, merci à vous surtout de permettre ça aux élèves.
Et puis voilà, bah, merci. Enfin, moi j'ai bien vu la progression des élèves et voilà, je trouve que elle est vraiment. Elle
on
est
peut
vraiment.
Les
ouais,
oui, on peut,
voilà.
on peut.
Merci.
Elle est vraiment fulgurante et je pense que voilà, s'ils veulent se lancer dans des carrières, il y a d'autres choses encore à travailler et d'autres projets, et voilà, toujours autour de la radio ou d'autres.
Et on te retrouve tout bientôt à l'antenne.
Alors, on va me retrouver samedi matin à partir de 6h.
Oh,
6h,
8h.
Ouais, si vous voulez ramener les croissants, c'est samedi matin. Voilà, vous sonnez, je vous ouvre. Peut-être pas à tout le monde. Et sinon, dimanche aussi, j'aurai mangé beaucoup de chocolat. Faut pas oublier de changer d'heure, puisqu'on va passer à l'heure d'été
c'est
dimanche.
Vrai.
On va perdre une heure de sommeil.
Voilà, c'est ça. À 3h, il sera 2h.
Eh bien, écoutez, un grand merci à tous nos auditeurs. Merci aussi, du coup, aux Tantes Maten et aux deux établissements scolaires de Célestat de participer à ces enseignements. Un gros bisou à toute l'équipe. On le rappelle, voilà, effectivement, on change d'heure. Moi, ça va être difficile, du coup, dimanche matin. Vous me retrouvez de 8h à midi, donc j'aurai une heure de sommeil en moins, puisque bah, je serai aussi déjà à l'antenne de 16h à 19h le samedi. On vous souhaite encore une très bonne semaine et puis une très bonne soirée en compagnie d'Azur FM.